commencerait par interroger des évidences sur les pratiques, qui continuerait par essayer d'analyser les usages, les besoins, un peu comme ce qu'on a fait là par rapport à la conservation, et ensuite essaierait pour expérimenter justement de fédérer les acteurs qui sont concernés par le sujet et qui ont aussi une expertise pour justement travailler sur un sujet en particulier et pour expérimenter. La question d'après, c'est peut-être une question qui va intéresser plusieurs d'entre vous, c'est une fois qu'on a expérimenté, une fois qu'on a peut-être une idée pour faire autrement ou en tout cas pour agir, de faire une nouvelle action, ce serait comment est-ce qu'on institue ça dans les manières de travailler, dans peut-être la législation, et ensuite comment est-ce qu'on le transmet à l'extérieur, et qu'on transmet les connaissances acquises. Et d'un autre côté, on s'était posé la question de la charte, donc qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dans la charte comme principe, en sachant que cette charte, elle concerne autant les artistes que les publics qui viennent en charge. Donc ce serait comme une sorte de contrat partagé entre une artiste qui viendrait faire une résidence dans le château et justement le château en reflet de ses engagements.
Alors je te propose, tu animes le comité d'espérance avec cette démarche. Et moi je vais animer la charte, comme ça on va se couper au niveau du. Nous sommes nombreux. Je vous invite à vous rapprocher des tables. On va chacun prendre.
On dirait un inverse après,
hein ? Ouais, prenez l'inverse.
Merci.
C'est ce qui permettra de se collaborer.
C'est là qu'on peut retenir peut-être des éléments qui iront dans l'un et dans l'autre, en sachant que vous pouvez questionner le contenu de ce qui a été fait précédemment. Qu'est-ce que vous en pensez de cette manière de faire, de vivre, et qu'est-ce qu'on peut peut-être apporter, compléter, corriger, et s'il y a des sujets qu'on a par exemple traités mais pas en entier, on peut aussi continuer sur ces sujets-là, notamment est-ce qu'on conserve, est-ce qu'on ne conserve pas, une grosse question qu'on a soulevée. Vous avez l'idée aussi de faire une longue retraite dans l'espace
inouï. Pour faire revivre le livre. Arrivé, non ?
Oui, oui.
Au troisième étage.
Pour moi.
Avec la salle.
Mais dans sa
vie. Alors, on peut s'en émanciper si c'est pas l'expérience.
Déjà, voilà, par rapport à l'expérience, du coup, est-ce que d'être avec des experts différents, des profils différents, des sensibilités différentes, ça marche ? C'est difficile ?
Bah déjà, est-ce que le sujet était la bonne manière d'aborder la chose ? Parce qu'en fait, nous, on est parti sur.
La conservation
préventive avec l'idée d'avoir un exemple précis de ce que c'était une conservation préventive et comment on pouvait intégrer le fait qu'on pouvait se gérer les animaux, les insectes. Et en fait, tout de suite, on s'est aperçu qu'en haut, on a vu la dégradation des lieux, et on s'est aperçu que c'était là. Quoi finalement, est-ce qu'il faut conserver, à quoi ça sert de conserver, c'est une question plus générale. Donc je pense qu'on est mal parti en fait sur le sujet.
Je ne crois pas que ce soit mal parti, je ne pense pas que le fait qu'on s'interroge sur faut-il conserver remette en cause la thématique. Je pense qu'elle est indispensable parce que la foi repose sur le doute. On doit d'abord interroger ce qu'on croit. Et donc, faut-il préserver. Moi, j'emploie le terme préserver plutôt parce que je pense qu'il est plus dynamique que le terme conserver, qui correspond à un statu quo où on cherche à maintenir les choses en l'état, alors que préserver, on veut le faciliter la transmission et l'avenir de ça. Donc, je crois qu'on s'est tous mis d'accord sur l'idée qu'il fallait préserver, justement, c'est quelque chose qu'on a... Non, mais poser la question était intéressant. Il me semble qu'on l'a dépassé surtout à un moment quand il y a eu cette remarque sur « oui, mais qu'est-ce qu'on veut faire dessus ?» Ça, c'est très intéressant.
Le comité d'espérance, ouais. En fait, l'idée, c'est de travailler sur cet organisme, en fait, pour réfléchir à comment justement, on convoque les gens et comment on gouverne un petit peu les établissements. Peut-être la question qu'on aurait pu poser, c'est, justement, on se met autour d'une table, on a le lieu d'espérant, on le voit, et le comité d'espérance qu'on réunit se demande, est-ce que vraiment c'est un lieu qui vaut le coup, est-ce qu'il faut vraiment le conserver, est-ce que ça vaut le coup que l'État mette de l'argent dans une conservation pareille, c'est ce qui s'est dit là. Et en fait, Géraldine a tout dit, on pose la question si on votait. Est-ce que vous seriez d'accord, est-ce qu'on laisse se dégrader ou est-ce qu'on conserve? J'ai dit, moi je pense que tout le monde dirait qu'il faut qu'on conserve.
Mais ce qui serait intéressant, c'est d'interroger aussi le mobile de cette réponse positive. Parce qu'en fait, il y a mille raisons. Pourquoi veut-on, pourquoi tout le monde est unanime au fait de le préserver? Certains, ça sera pour des raisons affectives, c'est pas le cas. D'autres, pour des raisons culturelles, de principe, c'est du patrimoine, donc il faut le préserver. D'autres, pour des raisons philosophiques ou pragmatiques, vont avoir une opinion différente. Mais pour des raisons juridiques, effectivement, c'est un patrimoine de l'État, donc on a des obligations. Ces différents arguments sont ressortis. Et ça entraîne des variations de modalités. Mais on a quelque chose qui me semble intéressant, c'est un attachement superficiel des gens qui ne connaissent pas encore le lieu, par le retentissement que peuvent avoir ces résonances d'un lieu qui a été habité. On sent bien qu'il y a eu une vie derrière, et c'est ça qui me semble pour moi le plus touchant.
Quand tu parles comme ça, c'est qu'on parle bien de est-ce que c'est intéressant de conserver l'espérance.
Oui.
Et c'est un sujet, donc je pense que c'est de ça dont on a parlé, et on n'a pas parlé du sujet de la conservation.
Oui, mais complètement là, voilà,
c'est pour ça que je dis que ça a peut-être un petit peu trompé dans le temps d'attaque pour l'atelier.
Et on a mis la charrue dans les bœufs, peut-être, si tu veux, parce que pour pouvoir le préserver, il faut
simplement, si je peux donner mon point de vue, il me semble que justement ça fait partie de la première question qu'on peut se poser pour la conservation préventive. C'est ce qui a été dit aux ateliers précédents, il me semble.
Oui, mais ce n'est pas posé là.
Là justement, ça a été posé directement et moi je trouve ça très intéressant parce qu'on arrive et on se dit alors on veut faire de la conservation préventive, mais pourquoi on veut le faire? Et est-ce que l'importance de conserver, c'est pas justement pour que ce soit vivant, pour qu'un public puisse y venir, pour qu'on conserve par transmission justement, qu'il y ait un attachement du public à certains objets, de connaître certains objets, leur patrimoine, leur histoire. Et du coup, se demander pourquoi conserver, je trouve que ça rentre. En tout cas, je ne suis pas spécialiste de la conservation préventive, mais il y a une question à se poser peut-être d'abord, c'est comme on se pose aussi la question, pourquoi on conserve une espèce protégée, c'est la même chose finalement.
Je pense qu'on a tous un attachement pour chaque réunion en demandant en philosophant sur pourquoi est-ce qu'on protège. On dit on protège, et puis c'est tout.
Tu as réfléchi avant à la question.
Oui,
tu viens, ton travail c'est de conserver les espèces à protéger. Voilà. Donc évidemment, tu ne poses pas la question, tu es dans l'opérationnel.
Non, mais on l'a posé.
Ah oui, d'accord. Tu ne la poses pas, mais bon, c'est une question, pourquoi on protège.
C'est que les gens sont arrivés dans cette question là aussi, parce que je pense qu'on était peut-être un peu perdus sur la notion de conservation préventive, merci. Et pour moi, avant d'interroger, il y a une étape avant qui est d'informer, d'expliquer, pour que, vu qu'on était tous avec des parcours très différents, moi j'avais un certain niveau de connaissance sur certains sujets, d'autres sur d'autres, et du coup, je pense que les gens étaient un peu perdus, ils ne savaient pas trop.
Et puis une meilleure, enfin,
comment répondre à cette question.
Un petit compte-rendu de ce qui a été dans les autres groupes. Je trouve que ça n'a pas été assez formalisé, peut-être. Parce qu'en fait, on ne sait pas si ça, c'était des questions, tu vois, on les a posées naturellement, mais on ne sait pas si les autres groupes se sont posés là, tu nous as répondu à la question de Benin. Hein. Mais c'est vrai, est-ce qu'il y a eu des redites ou des choses comme ça, parce que, comme vous disiez, on est là pour avancer sur ce qui a été fait. Mais pour avancer sur ce qui a été fait, quand on n'a pas participé,
les groupes précédents, ils ont fait du concept, voilà. Donc ça peut bien sûr des idées. Et là, vous êtes parti d'une expérience pour vérifier finalement la théorie, le concept posé par les groupes d'avant.
Mais du coup, la difficulté, je trouve, c'est qu'à chaque fois, on est avec des nouvelles personnes qui connaissent plus ou moins
les deux.
Et il faut du coup que dans ce comité d'expérience, il y ait quand même une certaine stabilité. Au moins quelques personnes qui connaissent très bien. Parce que sinon, à chaque fois,
mais on peut intégrer
les experts.
Ça veut dire que le comité d'espérance, ça doit être un groupe de personnes qui se retrouvent, qui sont là pendant longtemps.
Quel est le comité scientifique ? En fait, comme ça a été imaginé, c'est que n'importe qui pouvait dire quoi on a des questions, mais qu'il y a un moment où on analyse les besoins et là on dit ok, qui on veut ? Est-ce qu'on a besoin d'un groupe d'étudiants qui travaillent sur ces questions ? Qui on fédère ? En tout cas, ça arrive à un moment dans le processus. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait bien en poser.
Avec une carte, parce que la carte, elle permet quand même de faire une représentation mentale et ensuite de définir progressivement.
Ce que tu as exprimé, est-ce qu'on a posé la bonne question ? Peut-être que, comme c'est courant en général quand on amène ce genre de réflexion, vous vous êtes focalisé sur un aspect technique, le mot conservation préventive, c'est une approche opérationnelle technique. Et tous les présupposés ne sont pas posés. Et donc on a eu le besoin, à un moment ou à un autre, quand Yifong a posé la question sur la valeur patrimoniale du lieu, bon, vous avez fait une présentation générale, vous n'avez pas eu le temps, peut-être ça serait intéressant que les gens aient une espèce de petit... document leur expliquant un petit peu tout ce que tu avais fait justement sur la valorisation du lieu, parce que souvent on n'est pas forcément con. Quand on dit oui, on est d'accord, il faut absolument le préserver, oui, mais en quoi parce qu'on ne connaît même pas le lieu, on ne sait pas quelles sont les valeurs en fait. Parce que si on réfléchit déjà en amont de la technique, pourquoi on fait de la préservation, qu'est-ce qui fait patrimoine, ce sont les valeurs qu'on attribue. On peut, ça deviendra patrimoine quand on aura un musée historique, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est un outil. Voilà. Et donc, toutes ces questions-là, elles sont intéressantes à réinséminer quand on a des publics différents qui n'ont pas le même niveau d'information. Il faudrait qu'on dispose de ça.
Ça, c'est l'exercice, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ce qu'il faut noter, c'est que le comité d'espérance, c'est un comité stable, formé, stable. Et c'est à partir de ce noyau,
c'est un bon construit.
Voilà, on avance. Mais là, en fait, ce qu'on vous demande là, en fait, dans cette rencontre, finalement, c'est de faire comme si vous étiez déjà constitué, et d'essayer de pouvoir réfléchir à comment constituer ce comité de pilotage, enfin, ce comité d'espérance, et comment l'organiser. Ben, en fait, voilà, la première pierre, c'est de. On a bien vu qu'on était devant un écueil.
Magali, d'un point de vue d'une personne qui sera justement partie prenante de cette stabilité, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé ou que tu aimerais partager ? Ou en tout cas, comment tu l'imagines ?
Oui, ça a été déjà aussi, c'est qu'à un moment donné, cette charte, on ne l'a pas attaquée, mais on voyait vraiment le côté négatif de ce qu'on n'avait pas fait ici. C'est vrai que je n'avais pas la notion de ce qu'on a maintenant.
Parce qu'en fait, on n'a pas les moyens. Donc là, on part avec quoi ?
Avec quoi? Ben, effectivement, un vélo. Enfin, et puis on est parti aussi sur les musiques, la musique, parce que là, pour le coup, ça a un impact sur la nature. Un vélo, ça n'a pas mettre des indicateurs, ça n'a pas d'impact sur le reste. Donc c'est plus facile, mais c'est moins contraignant. Et là, actuellement, la question, effectivement, elle est là pour le nuisible qu'il faut traiter.
C'est vachement important d'avoir à représenter des représentants de la société civile, tu peux dire, qui sont plus. Parce que ça, c'est un regard extérieur qui peut nous interroger sur à quoi ça comme conserver. En gros,
les valeurs.
Alors, moi j'ai vu Espérant mourir, et quand il y a eu le passage, j'ai vu plusieurs conservateurs jusqu'à Milu. Donc après j'ai vu, non mais c'est vrai, après j'ai senti qu'il y a un livre. Et avant qu'il arrive, j'étais artiste l'école maternelle. Donc j'étais venue à mon vélo, de mon école maternelle, les petits en vélo, et on jouait dans le parc. Ça me donnait envie qu'il soit vivant. Et les enfants, j'ai des photos extraordinaires d'enfants qui jouaient dans le parc, avant qu'il n'y ait rien du tout. Après tu as des années, tu es âgé. Je me suis dit, c'est bon, il va faire des choses.
Et ben non,
il a
fait...
Non, mais il a fait des ouvertures qu'on n'a jamais. Les conservateurs, avant, il n'y avait pas d'ouverture, on ne pouvait même pas rentrer.
Voilà, on a fait cette mission de valoriser.
Voilà, donc ça, des cours comme ça. Pour moi, c'était.
On ne peut pas conserver uniquement pour conserver. Il y a une idée qui est sortie à un moment de mettre sous cloche. Moi, ça me terrifie parce qu'on reste entre soi, là.
On a une
certaine
le public est un allié. Et c'est pour ça aussi que je mets dans le sens. Il faut arriver à le motiver.
Tu vois ce que tu dis là? Qu'est-ce qu'on fait là?
Dans l'urgence, ça va. Faire attention à la notion de liberté artistique, il faut pas.
Et on travaille. On pourrait très bien se dire, en fait, ce lieu ne peut pas être. Enfin, il peut être simplement.
Regarde, il y a des sacs posés sur le meuble. Est-ce qu'on l'autorise? Jusqu'où on va, en fait?
Donc, en fait, moi, ça ne me choque pas, parce qu'en fait.
Mais il faut se faire oui, il se remarque, ça va.
En tout cas, déjà, on est un peu rebelle, on fait des réunions dans le grand salon.
Je pense que c'est très important de ne pas imaginer que la mise sous cloche est l'avenir du patrimoine. C'est au contraire, c'est la question.
Ça, c'est une vraie question de comité d'espérance. En tout cas, voilà, cet usage lié au patrimonial, c'est très important de la poser. Parce qu'en fait, on pourrait très bien avoir des gens qui diraient non, on n'utilise pas, on ne peut pas venir à l'artiste parce qu'on peut.
Mais ça, ce sont des ayatollahs. Je dirais que la réponse, elle se trouve ici avec la charte. C'est-à-dire, on va au contraire d'abord acter qu'on ne peut préserver un patrimoine que s'il y a une utilité sociale et donc s'il y a des gens qui viennent, si on transmet, etc. Et deux, que si la négociation justement sur les modalités se fait en émettant un certain nombre de règles sur l'usage de ce lieu. Et là, on trouve un
compromis. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on doit lutter contre, mais c'est difficile à lutter.
Mais bon, dans les endroits, par exemple, il y a beaucoup d'endroits, parce qu'on a parlé de mariage, ou on peut parler de banquet, ou on peut parler de film, il y a beaucoup d'endroits qui sont utilisés comme décor de film. La guerre, c'est d'éviter l'intensité lumineuse, de l'élévation de chaleur, des spots, etc. Et c'est pas toujours facile, parce que quelque part, surtout quand c'est les propriétaires privés, ils ont besoin de faire beaucoup de sous pour préserver leur château. Et donc, ils ont des grandes difficultés à mettre ça en équilibre. Donc, on doit être à la fois conscient qu'on a besoin de faire vivre le lieu, mais en même temps qu'on doit avoir des règles et des attitudes.
Et d'un point de vue pratique,
écouter un comité de référence, ça serait constitué en quelques personnes. Moi, je pense déjà qu'il y a les agents, en fait, des personnes de l'extérieur,
des personnes qui sont liées à l'intérieur, qui sont liées
au lieu. Il faut qu'il y ait des balances, naturellement, on les a, mais il faut aussi des experts. Comment ça s'organise la communication?
Au départ, il y a des comités de pilotage, donc comité si vous voulez pas. Tu as le comité de pilotage qui gère le projet en général et des comités scientifiques.
Qui élargissent un petit peu.
Voilà, et sur des thématiques, tu peux avoir plusieurs comités.
Ou alors on appelle des experts spécifiques à certains moments pour une problématique. Il faut que le noyau soit assez conscient pour qu'il y ait une bonne entente, un bon échange, etc. Et on fait, on invite des experts, des sachants sur un sujet particulier lorsque les thématiques de la discussion le nécessitent. Mais il faut des généralistes quand même pour que ça échange. Et des gens qui ont un peu d'expérience de gestion de lieux similaires aussi.
Et si on dit le comité d'espérance dans le cadre de l'OEA conférence, finalement c'est assez, assez clair dans ses objectifs, c'est-à-dire en fait. On est bien dans une obligation environnementale qui est au cœur de notre travail, donc ça veut dire
que
c'est déjà la mission. Voilà, la mission, c'est de, quand on va réfléchir, on va toujours réfléchir, non seulement à la conservation,
mais à l'aune des obligations quand c'est donné dans le...
C'est ça, c'est vraiment la conservation de la... culturelle, la conservation aussi.
C'est une parfaite conclusion. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter à peut-être qu'on échange les groupes. Donc, vous qui avez réfléchi sur le comité, vous puissiez réfléchir sur la charte. Merci beaucoup. Oui, on a 7 ans, on a 2000.
D'accord.
Ça est aussi à côté.
Non, je ne vais pas négocier.
Je suis le baguette.
Oui, c'est vrai. Présente
son projet, je vais vous dire que vous avez
sur le processus même du comité et l'autre sur le contenu de la charte. Donc, la première chose. La charte d'avant s'est exprimée un peu sur les habitants de Saint-Gilles qui sont exprimés, sont d'accord pour dire qu'il faut un lieu vivant. Là, on a essayé de retenir des principes, peut-être si on avait été dans cette situation du comité d'espérance, poser des arguments techniques autant que techniques, parce que la conservation, finalement, c'est quelque chose de très technique, mais là, on s'est posé la question philosophique, alors, pourquoi est-ce qu'on conserve? Est-ce qu'on a envie de conserver? Comment on a envie de conserver? Est-ce qu'on met sur place ou est-ce qu'on ouvre? Et la question, un peu, j'ai l'impression, qui a été retenue, quels moyens on a pour faire ce qu'on veut faire.
Et on avait la réponse qu'il n'y avait pas de moyens.
Ah oui,
Par rapport à cette obligation, moi, je m'interrogeais sur la possibilité de dissocier le mobilier de l'immobilier. Parce que là, pour le moment, on est sur quelque chose qui est quand même neuf. Oui, mais c'est une question qui mériterait d'être posée, c'est-à-dire... Parce que rien n'empêche de conserver le mobilier ailleurs le temps de s'occuper des bâtiments. Et puis de voir ensuite de quelle manière sont l'ensemble du château, mais peut-être des salles, des moyens les plus importantes, enfin, et de façon à dénouer un peu les charmes dans une situation où le mobilier prend, le bâtiment prend, on ne peut rien faire.
personnes, et du coup, tout ça fait. C'est la question du paysage. D'où la nécessité de faire une synthèse.
Je note ce que vous dites, ne faites pas attention à moi.
Est-ce qu'il faut que ce soit c'est une question, est-ce que c'est conservé en soi, mobilier, immobilier, ou est-ce qu'il y a un peu de souplesse pour pouvoir prendre soin du bâtiment.
Je peux poser une question un peu rapide, c'est pas grave.
La charte
de
la
construction
du
cadre juridique.
C'est un cas
objectif.
Cette impression vraiment de la charte,
c'est mon point. Moi, ce qu'on m'en a dit, c'est que c'était vraiment. Enfin, si ça a été donné au ministère de la Culture, c'est pas vraiment. Et que, en fait, la personne qui vivait dans le château, elle était déjà passionnée d'art, déjà passionnée de chevaux, il y a énormément de gravures, de dessins. Et que, en fait, son objectif, c'était justement qu'il continue à vivre dans cet esprit culturel.
C'est une famille qui a beaucoup de connue, il y a beaucoup de lieux, ils nous ont donné.
Voilà, personnage, il y a par moment, on m'a dit, par exemple, Karl Marx est venu ici. Enfin, il y a eu vraiment tout un...
D'accord, ok.
Je ne sais pas si c'était dans les motifs de l'intonation, mais...
Moi, j'ai retenu. Non, en tout cas, c'est un exemple du fait qu'il y avait vraiment une volonté de faire venir des penseurs, des artistes, de faire vivre le château d'un coup. C'était un lieu un peu de résidence aussi des personnes qui venaient à Paris, qui venaient là.
Qui venaient là.
Je n'ai pas le terme pour ça, mais qui venaient vacances, qui regardaient des poses des pieds.
Ouais, donc ce lieu, il vivait, quoi qu'il arrive.
Ce lieu, il était
un lieu vivant, quoi. Il a toujours accueilli du monde, même si on ne le visitait pas, c'était un lieu aussi avec aujourd'hui, il est réduit au château, au parc et à la réserve archéologique, mais c'était un territoire qui appartenait à la famille.
Oui,
et les fermes à côté faisaient partie de ce territoire, et des usages qui ont créé le paysage.
Il y a un domaine aussi.
Mais ça, c'est de la ferme et de la famille.
Ouais. Ferme, mais il y a un domaine qui est tout seul aussi.
Et c'est tout ça qui a créé ce paysage, cet intérêt. Donc c'était au-delà d'un lieu de vie, de villégiature, c'était aussi un lieu de travail et de ressources financières.
Le qui est un petit peu maintenant écarté, puisque du coup ça appartient pas complètement à l'État.
Mais c'est encore la famille hein, qui.
Oui. À côté, il y a
cette famille. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé en fait de la famille dans le, justement dans le juge, enfin, dans les interlocuteurs, dans les parties prenantes.
J'ai cru comprendre qu'ils avaient une partie de.
Oui, oui, oui. C'est quand même c'est les voisins déjà.
C'est à côté là.
Et puis, est-ce qu'il y a. Voilà, y a, enfin, je ne sais pas quels sont du tout les rapports. Je vais un peu les pieds dans le plat, mais c'est vrai que.
Ils sont pas bons les rapports.
Ils ont pas été invités. Moi, je savais qu'il y avait les chasseurs et les voisins. Voilà. Et du coup, je crois qu'il était pas prêt, donc il avait plutôt d'avoir un peu se faire secouer, pas de problème, mais de manière constructive. Et il me disait, on n'est pas prêt, on est trop fragile. Plus tard, mais par contre, voilà, c'était, il n'avait pas envie qu'on vienne nous mettre des mines sous la botte. Et du coup, il le sait, mais on s'est dit, allez, on repousse ça plus tard.
On se fortifie, on continue.
D'abord, on sait où on va, avec des gens bienveillants qui nous remettent en question, ça, pas de problème, mais pour qu'on soit meilleurs. Voilà. Et voilà, qu'ils prennent un peu soin de nous, quoi. Hein, pas qu'ils soient en train de se planquer dans le buisson pour nous tirer à vue. Ouais, grosso modo.
Et pour quitter seulement la question de la cohérence du paysage parce que, et de l'environnement, est-ce que les pratiques agricoles qui sont utilisées par la qui entourent le
cohérent
avec ce qu'on cherche, mais ça c'est dans. Dans les 50 ans.
Alors, je ne pense pas qu'on soit dans les 50 ans, je ne pense pas qu'il attendait sa porte de sortie pour se dire ça y est, on les a invités. Ah, peut-être. Et en même temps, ce type de démarche est certainement propice aussi à recréer un dialogue. Il ne faut pas avoir des ambitions de mesurer, peut-être, mais c'est peut-être intéressant de recréer un dialogue et peut-être qu'effectivement cette question trouve sa place sur, sur effectivement ces sujets-là. Quoi, hein. Mais sur la cohérence bâtimentaire, sur la cohérence géographique paysagère.
Yeah.
Et même sur la biodiversité, c'est ce qui est exprimé, c'est que la biodiversité, il faut que ça passe.
Oui, pas pour les gens,
je supporte pas les frontières. Donc à tous les niveaux, on ne peut pas avoir les
gens. Ça circule, même avec le même social.
Les idées circulent.
Mais il faut qu'il y ait des idées.
Et voilà, c'est ça.
Je veux dire de l'autre côté.
Alors, c'est un peu de désir. Voilà, quelques idées. Là, pour le moment, il y a un problème de désir, je crois, dans le travail.
Dans les deux sens.
C'est ça. Mais on est en train de créer le terrain favorable quand même pour réinitier. Et je pense que ce type de démarche est là aussi pour s'attaquer au point noir.
Oui, c'est sur la question, justement, pour la question initiale de pourquoi ce château a été légué. Et donc, du coup, pour interroger pourquoi et dans quels usages, ça peut être intéressant de re-dialoguer avec... voilà, à un moment donné, il y a eu une volonté initiale qui était quand même dans ce cas-là, donc on comprendra pourquoi il y a un
tout ça. Et là, du coup, effectivement, dans fédérer, c'est bien la question des acteurs, ou à un moment donné, si on se prive d'acteurs clés pour la réalisation de certaines actions, projets, ambitions, ça pose la question. Et du coup, effectivement...
Ce site est inscrit dans ce paysage et dans ces usages. Il y a coupure avec la nation. Et la question, c'est de retisser des relations avec les usages qui auront évolué entre-temps. Et peut-être que 10-15 ans, les voisins auront moins de fréquence.
Et même quand j'entendais belle une petite souris qui vous suivait un petit peu sur l'invitation à repenser les usages possibles à l'étage, clairement, dans le corps de ferme, ils ont repensé les usages. Et économiquement, ça m'a l'air tout à fait viable. Et où du coup, enfin, on voit bien que... mais c'est intéressant.
Non, puis surtout, je pense que les Vosges... Je pense que c'est quand même une grosse famille. Il doit y avoir les voisins, mais il doit y avoir cette ramification. Non, il n'y a pas de ramification...
On n'a pas fait que suivi généalogique.
C'est les frères qui sont tous frères et la sœur habite de l'autre côté.
D'accord. Parce que c'est vrai que souvent, bon, quand c'est, même la famille est réduite, les héritiers, mais c'est aussi, ça peut être quand ils sont motivés par un projet, des grands défenseurs, de la mémoire d'un lieu, des acteurs, il peut y avoir une vie à association. Bon. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même à penser, puis ça peut être. Il y a des générations de famille
aussi.
Si on pense sur 50 ans, il y aura certainement une nouvelle génération.
Des fois, il faut patienter.
Mais c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier dans le sens où voilà, cette famille est liée à l'histoire de ce lieu, et peut aussi un jour, quand elle nous faudra, jouer un rôle intéressant.
Et cette histoire de génération se posait de la manière à peu près comparable avec les chasseurs. On voit bien que le chasseur d'hier. C'est pas le chasseur d'aujourd'hui, et que du coup là aussi c'est pareil, il y a des dialogues qui vont être peut-être construits.
Il y a peut-être un chasseur là dans la
situation. Oui, il y a du pas mal. Oui. Mais c'est un peu sur le genre de chasse. C'est la Camargue, non? Hein? Un peu.
En fait, l'interface compliquée avec les chasseurs, c'est sur l'usage sur la prairie de la réserve archéologique, qui est du coup dans la pensée d'espérance, on protège les vestiges, mais aussi on. Propose une biodiversité sur cette parcelle. Et c'est un grillage, et en fait, les chasseurs vont casser ces grillages pour aller dans ce lieu pour chasser. Donc là, il y a un conflit d'usage, mais aussi finalement, sur ce qui sera.
Respect du foncier, de la propriété.
Oui, non, mais ça aussi, mais j'allais plutôt parler dans l'invitation. Et je ne trouve pas le mot dans le cahier.
Fais-le avec des gestes, non, pardon.
De ce qu'on pourrait philosophie et technique, c'est-à-dire que...
Ce pas les mêmes valeurs.
D'éthique, de
valeurs. De valeurs, ce n'est pas des valeurs communes, ce n'est pas des valeurs partagées.
On ne partage pas la valeur, mais on a contrainte. Après, peut-être qu'il faudrait parler, je ne suis pas spécialiste de la nature, mais peut-être qu'il y a une nécessité quelconque.
Ça se poserait de deux points de vue, je pense, du point de vue des descendants de cette famille et du point de vue des viticulteurs.
Donc ensuite,
si on parle d'écologie avec des gens qui pratiquent l'agriculture, ce n'est pas les mêmes enjeux que.
Ouais. Si je vous dis que dans 20 minutes on boucle, c'est bon.
Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer sur le principe même du comité d'espérance et de ce qui permet en termes d'équité de location.
Il y a qui dedans?
Alors, a priori, pour l'instant, ce qui a été dit, c'est que c'était un peu l'équipe d'espérants et au besoin, suivant les sujets d'expérimentation, de faire des partenariats avec d'autres personnes qui, justement, l'ancreraient encore plus. Ça pouvait être des écoles, ça pouvait être des...
La charte peut devenir un outil, en fait, de pouvoir...
Quelle est la vocation de ce comité, pardon ? J'ai pas bien compris, en fait.
Alors, l'idée de se dire qu'avec Coréreux, il y avait un besoin de changer les usages. On a parlé, par exemple, d'un sujet comme l'usage de la voiture, et pour ça qu'il fallait avoir un moment ou un lieu d'expérimentation. De pouvoir avoir un moment pour faire autrement, pour essayer de...
Le comité, il est là pour réfléchir sur les nouveaux usages, pour développer des...
En fait, c'est
se réunir régulièrement pour identifier les
besoins, les choses qu'il faudrait questionner dans le cadre de l'ORE. Et c'est une manière, du coup, dans le travail des personnes qui continuent à faire leur mission à l'actuel, de dire, bon, alors, comment est-ce qu'on va faire pour se poser ces questions, pour essayer de changer.
Et ce comité vivra après rédaction, enfin il ne s'arrête pas avec le.
C'est ça.
Il continue après à appliquer les questions de l'ORE.
Peut-être à faire fonctionner autrement. Voilà, c'est la question, comment on prend les décisions, quelles expérimentations on s'autorise. Ça, c'est
le non-respect de la charte Donc ça, c'est la différence entre la charte et le contrat.
Je ne sais pas si il y a
Par exemple, les musées, nous, on fait ça. Voilà, on a fait des colloques, il y a des colloques, des journées d'études. Et sur le patrimoine bâti, c'est différent. Parce qu'en fait, la DRAC, elle gère les bâtiments, c'est un cas par projet, c'est très rare. Non, puis surtout, il n'y a pas un conservateur par lieu. Il y a un partenaire de la comme privé,
Et ça va chercher plusieurs organismes.
En fait, les gens qui le pilotent contactent. Moi, j'ai été sollicitée.
Ce serait peut-être une piste à explorer, du coup.
Voilà, mais c'est co-financé et puis co-animé par, par je sais pas si le ministère, enfin voilà, c'est quelque chose, c'est un peu réalité, mais à l'échelle nationale. Ça a commencé par l'Occitanie, puis ça se voit donc bien.
Après, je pense que ce serait bien aussi que les membres du comité, donc si j'avais aussi des gens qui travaillent différents, vous, bon, j'ai une limite de temps de travail, etc., mais vous, un peu aussi les ambassadeurs auprès de lieux qui s'identifieraient voilà, sur le territoire avec des problématiques communes, et je sais pas, vous devriez donner. Identifier les lieux, prendre des contacts, voilà, ça peut être, genre, ça peut être bien sûr aller sur place, mais même organiser, voilà, que ça prenne des sens, que ce soit un peu actif dans la diffusion, dans la prise de contact, on fait des structures similaires pour défendre son modèle. C'est bien parce qu'il y a un modèle original qui naît,
Par exemple, il pourrait même contacter le château de
Saxe,
parce que j'ai
échangé
sur ce
cas. Voilà, ça peut être bilatéral, ça peut être voilà, organiser une rencontre plus large. Sur les réseaux. Ben, je sais pas, j'espère qu'il y aura une restitution ouverte très large de ce qui aura été fait sous la forme de, je sais pas, d'une après-midi de restitution, de salutation. Voilà, ouvert assez massivement, parce que Château des Sens reste un lieu quand même assez confidentiel. Je pense qu'avec cette démarche, ça permet aussi de rendre plus visite et de faire connaître davantage ce lieu aussi. Quoi.
Bah, j'ai l'impression que ce qu'on vient de dire, c'était plutôt ce que tu viens de
vient de dire, c'était plutôt peut-être d'en transmettre et partager, c'est-à-dire comment peut-être ambassadeur, la question d'ambassadeur, peut-être.
J'ai pas le droit à ces gens.
Ouais, pardon.
C'est ça le problème.
Et on pourrait même la transmettre et partager avec la feuille de route du ministère. D'ailleurs, il peut y avoir plusieurs feuilles.
Et instituer, comment est-ce que ça se formalise?
Alors, ça a été pensé pour un exemple très précis, celui du vélo. S'ils voulaient que sur leur temps de travail, les agents puissent se déplacer en vélo.
Oui, alors, le but, c'est de faire
l'achat. C'était une question importante pour n'importe quel sujet, finalement, dès qu'on entend un changement dans le travail.
Est-ce
qu'il faut intégrer la hiérarchie? Comment le faire? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça?
Mettre de la synthèse, là aussi. D'avoir tous les points.
On
peut faire une synthèse.
Par rapport à n'importe quelle pratique qu'on voudrait changer, puisqu'on ne fait pas non plus ce qu'on veut quand on travaille dans un lieu comme ça, donc il y a toujours une
question. La hiérarchie directe d'Espérance, c'est qui en fait? C'est le CIAF. Ça va tout de suite là-haut.
C'est savoir en fait si par exemple la commune est en train de déplacer d'achat à Saint-Gilles, c'est 5 km. À chaque fois on prend la voiture de service. Je sais bien peut-être se dire d'avoir des vélos peut-être électriques, un vélo électrique, et pour faire des petits achats, d'y aller, tout ça en fait, j'imagine qu'il faut demander est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut acheter déjà des vélos, parce que nous des vélos.
Est-ce qu'on peut avoir un usage de ces vélos-là? Il y a une assurance.
Quand il est saisi, alors on imagine une forme toute simple, mais c'est une adresse mail.
Moi, j'ai envie de mettre une flèche en marquant itération et une flèche dans l'autre sens.
Ok, alors dessinons sur la table.
Et en plus, aussi que l'on ait la démarche. Ensuite, si on attaque l'article. Non, mais c'est juste pour la hiérarchie. C'est juste pour. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit qui viendra en premier dans l'article de la charte?
Non, je crois que la réunion qui a raison, c'est les valeurs en premier. Et puis le reste en découle.
Donc, article
1. Oui, c'est ça. Mais on a des.
Oui, enfin, c'est l'idée de l'itération, c'est-à-dire qu'on est parti de là, on est arrivé là, et que cette interrogation, elle, même au stade d'interrogation, elle peut être transmise de façon à avoir des retours qui viendront nourrir l'interrogation. Et ce processus itératif, il est constructif. Et je trouve que c'est un processus qui permet de travailler avec d'autres plutôt que de rester, enfin, même si justement, en fait, c'est l'image d'aujourd'hui, il y a plein de gens avec des regards et des formes de pensée différentes. Et donc, peut-être d'essayer d'élargir encore cette ouverture.
Alors, je
ne
sais pas si vous
voulez
réagir à ça, mais
enfin,
nous, quand on en a parlé encore hier, c'est qu'en fait, à chaque fois,
il y a des problématiques qui n'ont pas besoin.
C'est la même chose, c'est qu'on veut expliquer que les couverts en bois, finalement.
S'il y a un événement qui va se passer, ça va être fédéré qui va être.
Mais là,
on peut peut-être rentrer dans
la chambre.
Chaque instant, on peut.
J'ai vu qu'il y avait des couverts en bois.
C'est la linéarité qui est réductrice.
Il faut le présenter en cercle.
Avec fédéré au centre.
Avec chez des anciens, oui.
Pas forcément. Quand on a dit ça, je m'en suis venu à poser la question.
Voilà. Vous êtes arrivé au bout, c'est bon? Super, d'aller
au bout.
Ouais, mais il faut s'arrêter.
Nos participants ont eu le temps de faire une.
Oui, tout à fait, parce que les autres, par contre, on a du mal à les arrêter. On va voir si.
On arrivait à un stade où ça devenait tellement coin de. De trop.
Ah bah moi j'ai enregistré tout.
Définir les valeurs.
Sauf les premiers.
Là on est sur plusieurs niveaux. On est à la fois sur le plan conceptuel symbolique et à la fois sur le plan réel. Pratique ou crainte. Donc ces deux plans sont complètement différents.
Et qui communique pourtant, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça réinterroge nos valeurs.
Elles sont en résonance. Elles doivent être en résonance. Mais il y a ce plan physique d'espérant, le plan symbolique, mais il y a le plan physique de chacune des personnes qui vont venir, l'artiste, celui qui va refaire la toiture, celui qui va organiser le festival, ils ont chacun leur univers physique, ils ont chacun leur univers symbolique.
C'est justement ce qu'on essaye de faire dans les ateliers. Alors les fois d'avant, c'est pas du tout de cette manière-là. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, on retire quand même des choses qui sont... y a l'aspect légal, mais surtout, on ne peut pas toucher. Il y a l'aspect d'expérimentation que les ordres de la vie, on l'avait pas du tout.
Légal, on peut toujours toucher.
En tout cas,
c'est pas la même chose que l'été.
Ici, on est d'accord, on est
oui, mais c'est pour ça que c'est une question d'identité. En fait, la problématique des organisations, c'est souvent les seuls. Il y aurait une seule punaise, il y a 4200 heures, ça se passe. Il y a un peu, c'est 40 000, c'est pas pareil. Donc, toute activité va être concernée par une question de flux et de stock. L'information, vous la captez de manière variable.
Personnellement, dans la façon de travailler, donc c'est en philosophie.
Mais par contre,
c'est une méthode ethnographique, c'est-à-dire qu'en passant du temps, en même à la fin de chaque réunion, en fait, on arrive à.
Ça fonctionne. Ça fonctionne. Il fonctionne avec un concept que j'appelle la même information. C'est une unité de sens. Une unité de sens, c'est en fait, dans un premier temps, expliquer ce que c'est une unité de sens. Il n'y en a que 10. C'est facile à comprendre. Mais ces 10, ça sont extrêmement génériques, extrêmement transitionnels. Pour un problème logique, on va les donner une couleur de l'unité. C'est-à-dire que ces 10 unités, ça correspond dans ces domaines à ça et ça. Par exemple, elles sont utilisées aujourd'hui en psychologie, mais elles sont aussi utilisées en biologie. Ça peut être une différence. Mais c'est toujours les étiquettes d'unité. Et ces unités, il y en a 9 qui sont sur le plan concret, depuis le 10e, c'est sur le champ symbolique. C'est le concept, mais les concepts, on en a mis plein tout le temps. Quand on parle de valeur, c'est le concept.
On parle de conservation.
Conservation, c'est. Alors, conservation, c'est un concept, mais ça s'opérationnalise. En tout cas, il y a des processus, ça se déprime. Son concept est parti.
Des concepts.
Donc, revenir au terrain, c'est extrêmement important. Et de cartographier, donc, quelles sont les possibilités de ça. Donc, on peut partir du terrain, dire voilà, il y a ça, il y a telle problématique, c'est du concret. On peut partir aussi du symbolique, quelles sont les valeurs. Qu'est-ce qui fait la valeur espérante. Mais pour chacun.
C'est une question un peu de la
même. Exactement. Pourquoi d'ailleurs chacun. Pourquoi on est ici. Chacun a une raison d'être ici. Elles sont certainement toutes différentes. Si on les connaît pas. Donc, moi je travaille comme ça. Et comme ça permet de faire à la fois émerger les valeurs. On distingue bien les valeurs, du coup, on cherche à faire la résonance, c'est-à-dire adapter C'est une démarche qui s'appuie sur l'intelligence écrite dans ses deux dimensions. L'intelligence qui consiste à adapter son environnement et s'adapter à son environnement. C'est deux, c'est une position. Mais l'intelligence, c'est l'équilibre entre les deux.
Que par exemple, il y a un espèce de socle commun de. Alors, on est d'accord pour préserver le vivant, on est d'accord sur cette valeur. C'est quand on a des artistes qui conservent, peut-être ça se fait déranger le vivant. On s'est dit, en laissant face à des problèmes concrets, on va voir finalement où est-ce qu'ils sont prêts à mettre la vie, parce que sinon, ça aurait été peut-être simple de poser des principes. On a envie de conserver le vivant, mais en même temps, si ça impliquait, parce qu'au début, on ne savait pas du tout. Ça impliquait de fermer une partie
publique.
Ben, là, la valeur de l'ouverture, elle était aussi contrecarrée. On a pu voir comment elle se.
C'est un problème très concret. C'est-à-dire qu'on a la valeur préserver le vivant. Ok, j'ai des arguments, c'est aussi préserver le vivant.
C'est sur ça qu'on a parlé.
C'est de sur... Voilà, tout à fait. De toute façon, le visible n'existe pas. C'est toujours un point de vue. La question, c'est de savoir sur quel point on se place. Oui, donc là, sur un abstrait biodiversité, préserve la biodiversité, on a une opération concrète qui est en antagonisme. Bon, après, on est juste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autant de choses de bruit. À telle distance, on sait que là, il y a les espèces, donc elles sont sensibles au bruit, les autres, elles le seront peut-être moins, ou elles vont se déplacer, tout ça. On sait que la jauge, ça ne sera pas plus de 300 personnes, et on ne fera pas mieux que ça.
Et on se demandait, je me disais si l'abstrait ouverture,
c'est
l'abstrait
de l'abstrait, justement, dans la pratique. C'est toujours possible, c'est une question de jauge, c'est de quantité, de limite. Ce lieu, il est très sympa si il n'y a pas trop de monde, mais si il fallait faire la queue pour rentrer et tout ça, ça ne paraît pas. C'est pour ça que je veux dire que le démarketing du tourisme,
c'est un intellectuel. Si, c'est même un peu un philosophe.
C'est bizarre,
hein, quand même. Ah, mais sur la méthodologie, là, tu vois, jusqu'à genre dans 2 ans, ils continuent à t'expliquer des trucs et tout. Les graines, mais si, les graines d'information.
Ah, mais oui, avec plaisir. Je vais. Ça fait 30 ans que je travaille.
Dans les organisations.
Non, parce que ma spécialité, c'est organiser la formation. Quand j'ai organisé la formation, je m'aperçois que normalement, ça amène une transformation de l'éducation. Et réciproquement. Mais ça ne marche pas toujours.
Là, c'était ça.
Ceux qui veulent s'asseoir parce qu'ils sont fatigués d'être debout, ils peuvent s'asseoir, mais ce qui est bien, c'est d'avoir accès pour ceux qui veulent se rapprocher à la table. Ils ont gardé la restitution. Et ben ouais, et ouais, il faut pouvoir circuler un petit peu. Et du coup, tu vois, même ça. Pardon. On peut tout débrancher, on n'a plus besoin, ouais. Voilà.
Faut pas me débrancher.
T'es où ?
C'est toi ?
Ah bah
je suis là, c'est la caméra.
C'est celle-là ?
Faut pas me débrancher.
Ah bah non. Attention, attends, ça marche, hein, ça marche. Ouais, donc là, j'ai jusqu'à ce moment-là, super. Et là, j'éteins. Hop là. Là, ça va là. Ah, parce que tu voulais enlever... Ah, pardon.